La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du premier génocide du XXe siècle perpétré par l'armée allemande contre les Herero et les Nama de Namibie.
My grandparents was Timotheus Sneva. And my grandmother was Leona Hoffmann.
Timotheus Niva et Leona Hoffmann étaient mes grands-parents. Évidemment, ils ont parlé du génocide, mais vous savez bien que le système nous opprimait. Nous n'avions pas le droit de nous exprimer dans notre propre langue. D'abord, nous avons dû parler allemand, et puis ensuite l'afrikaan. Mais nous n'avons pas oublié le Nama, notre langue. Même si on ne la maîtrise plus aussi bien qu'avant, nous parlons notre langue.
What I can remember about singing is that when the Herero fled,
ce dont je me souviens à propos des chansons, c'est qu'au moment où les Herero ont fui dans les pays voisins, en Afrique du Sud ou au Botswana, ils étaient opprimés dans ces pays-là et ils n'avaient pas le droit de parler leur langue. Ils ont donc commencé à chanter pour se transmettre leur histoire. Mais aujourd'hui, les Herero d'Afrique du Sud ne parlent plus Herero. Ils ont perdu leur culture, mais ils savent qu'ils viennent de Namibie.
Ida Hoffmann et Esther Muyange chantent pour ne pas oublier leur langue, leur culture et leurs ancêtres exterminés entre 1904 et 1908. Ida Hoffmann préside le comité du génocide des Nama et Esther Muyange la fondation du génocide des Herero, enregistrée en Namibie par Cécile Leclerc pour La Marche du Monde. Leur voix résonne dans la première exposition organisée en France par le Mémorial de la Shoah sur le premier génocide du XXe siècle, et RFI a choisi d'être partenaire de cette exposition événement qui permet de partager le fruit des recherches historiques menées depuis les années 1990, principalement en Allemagne, mais aussi en Namibie. Avec Sophie Nagy-Skard, commissaire générale de l'exposition, bonjour.
Bonjour.
Léonore Faber-Jonker, bonjour.
Bonjour.
Et Yann Barthes-Gewald, bonjour.
Bonjour.
Les commissaires scientifiques et Bernard Cohen, leur traducteur, bonjour.
Bonjour.
Nous vous proposons de découvrir cette histoire de crimes coloniaux et de racisme scientifique trop longtemps occulté. C'est dans le contexte de la conquête coloniale de l'Afrique et de son partage par les grandes puissances européennes que les Allemands arrivent dans l'actuelle Namibie, pays frontalier du Botswana et de l'Afrique du Sud. Alors nous sommes à la fin du 19e siècle et le 7 août 1884, le ministre-président Bismarck accède à la demande des colons allemands et il crée un protectorat du sud-ouest africain. C'est l'ancien nom de la Namibie. Yann Barthes-Gewald, quelle est la situation des Herero et des Nama à l'époque, c'est-à-dire des 80 000 Herero et 20 000 Nama.
At the time that the German protectorate was established in Namibia,
au moment de l'établissement du protectorat allemand en Namibie,
the Herero population and the Nama population were living all over central and southern Namibia.
La population Herero et la population Nama vivaient de façon dispersée dans la partie centrale de la Namibie.
And they were living under a variety of chiefs who were either in alliance or in conflict with one another.
Et ils vivaient sous la direction de nombreux chefs qui étaient soit des alliés, soit en conflit.
Primarily,
Ceux qui habitaient la partie centrale et le sud de la Namibie travaillaient notamment avec l'élevage de troupeaux et qui commerçaient avec la ville du Cap et avec la côte atlantique.
À ce moment-là, Jan Bart Gewald, quelle est la stratégie de l'administration coloniale allemande vis-à-vis de ces chefs guerriers, Herero et Nama, comme Kama Herero et Hendrik Witboy, dont on retrouve les noms et les photographies dans l'exposition au Mémorial de la Shoah?
When the Germans arrived in Namibia,
à l'arrivée des Allemands en Namibie, le chef le plus important des Nama s'appelait Hendrik Witboy.
Hendrik Witboy was a prophet and he was also at the same time the chief of a group.
À l'arrivée des Allemands, Hendrik Witboy était à la fois prophète et chef d'un groupe qui s'était rassemblé autour de lui dans la partie méridionale de la Namibie et qui avançait vers le nord.
At the same time, centered around central Namibia, there was the Herero chief called Maharero.
Et en même temps, dans la partie centrale de la Namibie, le chef des Herero s'appelait Maharero, et il était tantôt l'allié de Hendrik Witboy, tantôt en conflit avec celui-ci.
Tout dépend effectivement de la période dont on parle. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pendant au moins une vingtaine d'années, on peut constater qu'il y a des conflits incessants pour finalement les terres de pâturage entre les Nama et les Herero.
Precisely. And this conflict.
Oui, tout à fait. Et justement, ce conflit pour les terres de pâturage faisait partie des éléments qu'utilisaient les Allemands pour manipuler la population.
En Allemagne, c'est Bismarck qui est aux commandes. Il est d'ailleurs surnommé le chancelier de fer. À l'époque, on l'a dit au début de cette émission, les différents empires coloniaux se font la guerre, en fait, une guerre de territoire en Afrique, et les Allemands, en l'occurrence, veulent contrer l'expansion britannique dans la région. Mais comment cette période, en fait, de jeu d'alliance se termine et à quel moment la situation bascule avec des révoltes, finalement, qui vont initier une répression massive de la part des Allemands contre les Herero et les Nama?
It's going to sound very strange, but the most important thing is to see there's a change in Germany and there's the arrival of Kaiser Wilhelm II.
Cela peut paraître bizarre, mais le changement le plus important s'est effectué en Allemagne avec l'avènement du Kaiser Guillaume II.
The arrival of this new Kaiser in Germany.
L'arrivée du nouveau Kaiser a modifié entièrement la politique en Allemagne et également la politique coloniale qui s'est durcie de façon remarquable.
Et c'est ainsi que le temps des alliances et des négociations prend fin avec l'arrivée du général Lothar von Trotha, qui ordonne par écrit l'extermination des hommes, des femmes et des enfants, Nama et Herero. Nous sommes le 2 octobre 1904.
Every Herero,
chaque Herero,
grandmother, grandparent,
chaque grand-mère, chaque grand-parent en a parlé.
There was an order to kill us all.
Un ordre a été donné de tous nous tuer.
So everyone, they knew about it.
Tout le monde le sait.
C'est dans la capitale namibienne, à Windhoek, que Esther Muyenge a confié son histoire familiale à Cécile Leclerc au printemps 2014.
In my family, of course, we had people like Kaishen Wamuhoko.
Dans ma famille, je sais qu'un homme de mon clan, du nom de Kaishan, s'est rebellé.
So there was people in my family who were standing up.
Ça veut dire que dans ma famille, certains se sont révoltés et ont combattu contre les Allemands qui voulaient prendre nos terres et notre bétail. Ils ont été vaincus et tués à Okahandja. Cet homme, Kaishan, a été tué. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait comment il est mort, ni où son corps est passé.
Que se passe-t-il pour votre arrière-grand-mère ?
Of course, like many of the other women who were raped.
Elle a évidemment essayé de survivre avec ses enfants, comme beaucoup d'autres femmes violées. Et elles ont élevé leurs enfants blancs, leurs enfants sans père.
Kambuke died in the 80s, but his mother died during the time of concentration camps.
Kambuke est mort dans les années 80, mais sa mère est morte dans les camps de concentration.
In Shark Island, in Windhoek,
Quelle que soit leur provenance, les gens étaient envoyés dans les camps de concentration à Shark Island, à Windhoek, à Swakopmund. Difficile de savoir où ils étaient exactement, car il existe très peu de sources d'informations à ce sujet.
La plus d'informations que nous avons est l'information qui est recordée dans le so-called Blue Book.
Le peu que nous sachions est consigné dans ce que nous appelons le livre bleu.
The life in the concentration camp was very, very harsh.
La vie en camp de concentration était très, très rude. Les gens mouraient de faim et de maladies.
Because you can imagine what can happen when you put a lot of people.
Vous pouvez imaginer ce qui peut se passer lorsque vous mettez autant de gens dans si peu d'espace.
Votre arrière-grand-mère meurt dans le camp. Savez-vous quand votre grand-père Kambuke sort du camp?
I want to assume that in 1908, I think in March, April, the German government then took a resolution.
Je ne fais que des suppositions, sachant que en 1908, en mars ou avril, le gouvernement allemand a pris la décision de libérer tout le monde.
All the concentration camps should be abolished.
Et la résolution précisait que le 28 mai, tous les camps devaient être abolis et les prisonniers libérés. Donc je pense que mes ancêtres ont été libérés à ce moment-là.
Entre 1904 et 1908, environ 80% du peuple Herero et 50% du peuple Nama ont été exterminés. Quelles ont été les grandes étapes de ce génocide, Léonore Faber-Jonker?
The genocide in German Southwest Africa took place in two phases.
Le génocide s'est déroulé en deux phases.
At first, General Leder von Trotter.
Dans un premier temps, le général von Trotter a entouré les Herero qui s'étaient réunis sur le plateau de Waterberg.
And at this time, the Herero were gathered there were not only
les Herero qui s'y étaient réunis n'étaient pas que des guerriers. Il y avait les familles entières, les femmes, les enfants, les vieux, avec leur bétail et l'ensemble de leurs affaires et leur foyer.
He ordered the attack and left the defenses on one side of the.
Les héros étaient encerclés. Quand l'attaque a été lancée, il y avait une faiblesse dans les rangs allemands d'une part, et l'ensemble des troupes héros ont réussi à s'échapper par là.
The direction where the Herero managed to break out was
the
direction of the
Kalahari. Ont réussi à fuir, mais uniquement vers le désert Kalahari. C'est là où est parti l'essentiel de la population Herero. Le général von Trotter a ordonné une chasse.
He systematically chased the Herero deeper and deeper into the desert.
Les forces allemandes repoussaient les Herero vers le désert et bloquaient l'accès au point d'eau.
So deprived of water or food, they
sans eau, sans nourriture, les héros mouraient par milliers.
After a month and a half of this tactics of chasing them, of keeping them away from water,
à l'issue d'un mois et demi de cette chasse à l'homme dans le désert, le général von Trotter a émis l'ordre de destruction du peuple Herero en disant que tout homme, femme ou enfant serait fusillé.
This signifies this first phase. It was actually ordered.
Dans cette première phase du génocide, cet ordre ôtait toute possibilité de survie à ce peuple. Ils ne pouvaient pas revenir en arrière, ils ne pouvaient que rester dans le désert.
And the second phase commenced when,
la deuxième phase a débuté grâce à l'action des missionnaires qui ont milité pour le retrait de l'ordre de destruction.
When the order was withdrawn, the surviving Herero were collected and put in concentration camps.
À la suite du retrait de l'ordre de destruction, les Herero étaient regroupés et mis dans des camps de concentration.
They were already in a weak state.
Déjà épuisés, on les a obligés à travailler et cela a eu des conséquences néfastes.
Exactly that Lena Hoffman was in the concentration camp, that can I not say.
Je sais que Lena Hoffman était dans un camp de concentration, mais je ne sais pas lequel.
The people who have lived over.
Mais elle a raconté aux personnes qui lui ont survécu comment les prisonniers du camp devaient nettoyer les crânes des autres cadavres, comment les scalper, retirer la peau et les yeux, toutes ces choses horribles. Elle ne l'a pas fait elle-même, mais elle a vu les autres le faire.
Then what about the people who was there? They were slaves.
Mais parlons des prisonniers. Ils étaient esclaves et vous savez comment les esclaves sont traités. Ils mouraient de faim.
And the most bitter part.
Mais ce qui est pire que tout, c'est qu'ils devaient retirer la peau sur les cadavres. Que ce soit leurs fils, leurs maris, leurs pères, leurs oncles, leurs amis, qui sais-je. Le fusil sur la tempe, ils devaient nettoyer les crânes et les mettre dans des boîtes pour les envoyer en Allemagne. Ensuite, ils devaient eux-mêmes enterrer le reste des corps. Mais ils n'avaient pas le droit de pleurer ou de refuser, sinon ils auraient été tués sur le champ.
Ida Hoffmann est persuadée que de nombreux crânes Nama sont encore en Allemagne, une conviction partagée par Esther Muyange en ce qui concerne les crânes Herero.
The whole issue why the skulls were taken to Germany was to do scientific work on this.
Tout le problème, c'est que les crânes étaient envoyés en Allemagne afin de réaliser des expériences scientifiques. Ces soi-disant scientifiques allemands devaient montrer, devaient prouver que les Noirs étaient d'une race inférieure à celle des Blancs.
We were asking them, the German government, to give us some findings of the so-called research.
C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement allemand de nous donner des preuves de ces prétendues recherches. Et bien sûr, la réponse, c'est qu'ils ne retrouvent aucune archive à ce sujet. Mais moi, je suis sûre qu'ils n'ont jamais pu prouver que les Noirs sont inférieurs aux Blancs.
Sophie Nagiscard, nous sommes bien dans une histoire de crime colonial et de racisme scientifique. Sur quelle théorie s'appuient ces distinctions entre les peuples dits civilisés et les peuples dits primitifs, pour reprendre le vocabulaire colonial de l'époque ?
Ça s'appuie sur des théories qui sont développées à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Certains théoriciens de cette théorie de l'hygiène raciale qui va être développée plus spécifiquement en Allemagne vont inspirer quelques années plus tard la politique ou les théories raciales, notamment d'Adolf Hitler lorsqu'il va écrire Mein Kampf.
Vous verriez donc dans cette théorie racialiste scientifique du début du siècle une forme de genèse en quelque sorte des théories qui vont sous-tendre toute la doctrine nazie ?
Oui, en tous les cas, c'est une des sources d'inspiration, clairement.
Alors, d'autre part, à l'époque, on voit jusqu'où ça va, hein, c'est-à-dire que le génocide est même justifié en Allemagne. Est-ce qu'il y a une véritable campagne de propagande autour des Herero et des Nama, une sorte de campagne de la haine qui est menée en Allemagne ?
On va dresser la population contre ces sauvages africains qui tuent nos pauvres colons, quoi. Donc c'est vrai qu'on met la population dans un état d'esprit qui lui permet de voir partir avec enthousiasme ces troupes qui vont aller opprimer les peuplades de la colonie qu'on veut occuper. Néanmoins, il y a quand même des gens qui ne sont pas d'accord et il y a des débats qui ont lieu, hein, dans les assemblées allemandes. Ça ne se fait pas non plus aussi facilement que ça. Et il y a une partie de la population qui est contre, je pense que...
Une partie de la population allemande.
Oui.
Sophie Nagiscard, Léonore Faber-Jonker et Yann Barguevald sont dans La Marche du Monde, une émission consacrée à la première exposition française sur le génocide des Herero et des Nama. C'est au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 12 mars 2017 et c'est à suivre sur RFI.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde consacrée au premier génocide du XXe siècle, celui des Herero et des Nama de Namibie, un crime contre l'humanité occulté par l'histoire héroïque de la colonisation allemande de l'Afrique, dont la mémoire a été largement écrasée en Namibie par une autre mémoire, celle de la lutte contre l'Afrique du Sud et l'apartheid. C'est ainsi qu'il aura fallu attendre l'indépendance de la Namibie pour que les descendants des Nama et des Herero puissent commencer à se souvenir. C'était le 21 mars 1990. Comme l'annonce à l'époque Christophe Boisbouvier sur RFI.
Bonjour à tous, il était 0h18 ce matin à Windhoek quand le drapeau namibien a été hissé au mât du grand stade de la ville. Voilà, c'est dans cette immense clameur que les couleurs namibiennes flottent enfin sur Windhoek. À cet instant précis, la Namibie accède à l'indépendance. Alors, Pascal Chollet, vous avez vécu ce moment d'histoire. Vous êtes en direct avec nous. Racontez-nous comment s'est passée la passation des pouvoirs entre l'Afrique du Sud et la nouvelle Namibie indépendante.
C'est en fait donc à minuit 18 que la Namibie est officiellement devenue indépendante. Le drapeau sud-africain a été descendu sous les hurlements de la foule qui criait ainsi un petit peu revanche pour les années d'occupation et le conflit qui a laissé de nombreuses victimes. Pendant que les couleurs sud-africaines disparaissaient à jamais du sol namibien, le président sud-africain, Frédéric de Klerk, portait sa main droite sur son cœur. Frédéric de Klerk qui, dans un discours bref mais fort, a souhaité bonne chance aux Namibiens, leur confiant qu'il avait de l'espoir en l'avenir de la Namibie, un discours qui a quand même été applaudi.
And from there, something grows in me.
C'est à ce moment-là que j'ai ressenti un besoin profond. Il fallait que je fasse quelque chose de moi. Il fallait que je devienne quelqu'un. Et heureusement, en 1992, j'ai enfin pu parler de ce qui nous est arrivé. Avant, c'était la lutte pour la libération et il n'y avait pas d'espace où contester les Allemands et les Africains du Sud. C'était la guerre à ce moment-là. Mais en 1992, les choses ont changé. Et aujourd'hui, je peux vous raconter mon histoire. Les Allemands sont venus dans notre pays pour voler nos terres. Nos terres, Hereros et Namas. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos richesses et ils ont assassiné notre peuple.
La voix de Ida Hoffmann sur RFI, présidente du comité du génocide des Nama. Vous pourrez également l'entendre dans l'exposition du mémorial de la Shoah, car pour la première fois en France, des témoignages, mais aussi des archives, des objets et des photographies permettent de comprendre le processus génocidaire en Namibie. Écoutez, Esther Mouyangue, elle est présidente de la Fondation du génocide des Herero.
Did not speak about the genocide at all. I think that time the focus was on gaining independence.
Nous ne parlions pas du génocide à cette époque. Je pense qu'à ce moment-là, l'important c'était de gagner l'indépendance.
Of course, in homes, in individual homes.
Bien sûr, dans nos foyers, on en parlait.
But not collectively as a group.
Individuellement, mais pas collectivement.
And after independence of Namibia, I think.
Et après l'indépendance de la Namibie, je pense que nous avons essayé de trouver nos racines.
It's only since 2003 that we started to openly talk about it.
C'est seulement depuis 2003 que nous avons commencé à en parler ouvertement. Nous nous sommes organisés en tant que communauté pour une prise de conscience, pour nous informer sur ce qui s'était vraiment passé, afin que chacun puisse comprendre de quoi il s'agissait.
Il aura donc fallu attendre les années 90 pour que le génocide des Herero et des Nama devienne un sujet de recherche, Léonore Faber-Jonker. Pourquoi ?
Il a fallu longtemps avant qu'on puisse aborder cette question de génocide. Il y a eu un effort conscient de l'oublier. On peut dire que ça a été mis de côté de façon délibérée.
En 1917, already British authorities compiled a blue book with listing the atrocities committed by the Germans in the colony.
En 1917, les Britanniques ont élaboré un livre dit Blue Book qui était un recueil des témoignages d'atrocités commis par les Allemands en Namibie.
But the Blue Book was banned in 1926.
Pour promouvoir l'unité des intérêts des colons blancs en Afrique du Sud-Ouest, ce livre de témoignage, le Blue Book, a été interdit et détruit.
Under apartheid until independence.
Sous l'apartheid, jusqu'au moment de l'indépendance, c'était le point de vue allemand qui dominait le discours.
Et ce qui est intéressant, c'est que même le gouvernement namibien est resté silencieux jusqu'en 2011. Et au fond, le rapatriement des crânes de Herero et de Nama, quel était l'enjeu à ce moment-là?
Well, already before that, the
même avant le retour des crânes, le génocide faisait partie de la lutte pour l'indépendance en Namibie.
But it was during this repatriation of the skulls that actual.
Mais pour la première fois, avec le rapatriement des crânes, les groupes Nama et Herero ont pris les devants de la scène.
Alors effectivement, c'est la première fois qu'on parle de ce sujet dans les médias. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on commence ici même à RFI à se poser la question. Est-ce que vous diriez que la couverture médiatique du rapatriement des crânes a pu avoir un impact en fait sur l'attitude non seulement du pouvoir allemand, mais aussi du pouvoir en Namibie?
Yes, I think this was a very important event. This, you could say, this was a turning point in the way.
Oui, bien entendu, il s'agit d'un tournant dans la manière dont on s'occupait des questions du génocide dans le débat public.
Alors aujourd'hui, on est à la recherche. Quel est le sujet aujourd'hui pour les chercheurs, Léonore Faber-Janker?
Much interest goes into.
À l'heure actuelle, on essaie de faire la part des choses dans les documents, dans les archives allemandes, pour voir s'il n'y a pas trop de biais pro-allemands.
Young Namibian scholars argue for the use of.
Les jeunes chercheurs namibiens demandent que l'on intègre davantage les témoignages de sources orales des Herero et des Nama.
Est-ce que c'est également un sujet aujourd'hui pour les chercheurs, ce dialogue entre la Namibie et l'Allemagne au sujet des éventuelles réparations demandées par les associations de victimes? Yann Barthes.
Absolutely, and it'll be increasingly so.
Oui, bien entendu. Avec le temps, il y aura de plus en plus de recherches dans ce sens où l'on cherchera des précédents ailleurs dans le monde qui pourraient s'appliquer à la situation en Namibie.
C'est pourquoi j'ai demandé à notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault, de revenir précisément sur la déclaration prononcée par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand l'été dernier.
Erstmal ist die Grundlage für alles tun, für unser politisches Handeln.
Nous sommes en juillet 2015 et le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Martin Schäfer, explique lors d'une conférence de presse que son pays assume sa responsabilité pour les crimes commis durant la guerre coloniale menée en Namibie au début du XXe siècle.
Herero, der Nama, der San und der Damara bekennt. Schon 2004 hat die damalige Bundesministerin für wirtschaftliche.
Il faut rappeler que deux mois avant, le Parlement allemand avait adopté une résolution reconnaissant le génocide arménien en tant que tel, ce qui avait contribué à replacer celui commis 10 ans auparavant par l'Allemagne en Afrique sur le devant de la scène. Le président du Bundestag, Norbert Lammert, avait peu après reconnu que son pays avait commis un génocide en Namibie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, quelques jours après, rappelle que la ministre du Développement social-démocrate de l'époque avait évoqué sur place en 2004, lors d'un voyage, le terme de génocide. Il ajoute également qu'une résolution de 2012, soutenue par l'opposition de gauche de l'époque au Parlement, et notamment par celui qui est devenu depuis le ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, reconnaissait ce génocide, une résolution qui, toujours d'après le porte-parole du ministre, reste le fondement de la position allemande. Depuis 2 ans, l'Allemagne et la Namibie négocient l'adoption à terme d'un texte qui doit être approuvé par les parlements des deux pays, un texte dans lequel l'Allemagne reconnaît le génocide et présente ses excuses. Cet été, une autre porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Berlin soulignait « Nous avons depuis longtemps parlé de génocide ». Les négociations prévues pour s'achever à la fin de cette année risquent de durer plus longtemps. Les représentants des Herero réclament des réparations financières. Berlin s'y refuse, rappelant qu'après la Shoah, seules les victimes directes de la déportation avaient été indemnisées. L'Allemagne privilégie la création d'une fondation devant financer des projets sur place et contribuer au travail de mémoire.
Alors, si la presse parle de reconnaissance par l'Allemagne du génocide d'Herero et d'Enama, vous êtes beaucoup plus prudente, vous, dans l'exposition que vous présentez au Mémorial de la Shoah, Sophie Nagy-Skjærde.
Nous, on n'est pas au courant des négociations, de l'état des négociations qui sont engagées entre les associations de mémoire, les autorités namibiennes et les autorités fédérales de la République fédérale d'Allemagne. Donc, nous, on dit que c'est un processus qui est en voie de se produire, quoi. Par exemple, dans le cas de la France, tout ce qui avait été spolié aux Juifs, que ce soit leurs entreprises ou leurs biens personnels, avait été extrêmement bien noté par les services de l'État français, puisque tout ça s'était revendu et enregistré dans les comptes de la Caisse des dépôts. Donc là, effectivement, on peut dire que pour l'exemple de la France, mais c'est aussi dans d'autres cas. Alors il y a des pays dans lesquels c'est plus compliqué, parce que cette comptabilité de la spoliation, elle n'a pas été faite aussi précisément. Précisément, par exemple, si vous allez en Ukraine, dans les villages où les biens des Juifs ont été pris, soit par les Allemands qui étaient en présence, soit par les populations locales, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a été pris. C'est pas aussi bien comptabilisé. Donc, les questions de répartition et de réparation, c'est très compliqué.
Les questions de réparation sont très compliquées, d'autant que là, les victimes ne sont plus les victimes directes.
Ben oui, en plus. Mais ceci dit, je pense que malgré tout, pour ce qui est de la Namibie, puisqu'on parle quand même d'un processus qui se passe en plusieurs temps, c'est-à-dire que les Herero, dans un premier temps, on va leur prendre leurs terres pour y implanter des colons, mais après l'indépendance, malgré tout, on sait que les meilleures terres restent aujourd'hui dans les mains de gens qui sont les descendants de ces colons ou de ces soldats allemands implantés sur place. Et que leur terre ancestrale, le territoire qui leur a été donné, ne correspond pas à la terre ancestrale des Herero, qui est la terre, évidemment, qui est de meilleure qualité, paraît-il. Enfin, moi, donc, si vous voulez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont éventuellement à dire. Et ça, je pense que la documentation qui existait, et ça, Jan Barth pourra en parler, elle permettrait de prouver, en tous les cas, ça.
Chaque année, au mois de mars, les descendants de Herero et de Nama se retrouvent à Swakopmund, sur les lieux mêmes d'un camp de concentration, pour rendre hommage à leurs ancêtres. Les Herero et les Nama ont fait construire deux mémoriaux dans le désert, et lors des commémorations, un chef Herero s'adresse aux ancêtres.
Le génocide est intrinsèquement lié à la question de la terre en Namibie. Les communautés les plus touchées, les Herero et les Nama, ont été chassées de leur territoire par les Allemands afin de créer des exploitations agricoles.
Jérémy Sylvester est historien à l'Université de Namibie. Au nom de l'Association des musées de son pays, il prépare une exposition itinérante sur le génocide des Herero et des Nama.
Les voyageurs qui traversent la Namibie peuvent encore découvrir les traces mémorielles de la guerre dans le paysage. Si vous voyagez avec un Herero et si vous passez par un site où des chefs guerriers ont été tués, alors il va se taire, retirer son chapeau et exprimer son respect. Et ces tombes, eh bien, elles se trouvent au sein même des fermes agricoles. Deux des camps de concentration les plus connus où ont été emprisonnés des hommes, des femmes et des enfants, Herero et Nama, c'est-à-dire les camps de Swakopmund et Lüderitz, sont devenus des villes touristiques majeures en Namibie. Mais en revanche, il n'y a aucune information sur ce qui a pu s'y passer. À Lüderitz, le pire des camps était sur Shark Island. Et encore aujourd'hui, les touristes peuvent y planter leurs tentes. Pour moi, c'est comme si on avait le droit de camper à Auschwitz, en Europe. C'est vraiment inacceptable.
Jérémy Sylvester, pensez-vous qu'il est suffisant d'écrire cette histoire à partir des archives allemandes ?
Nous mesurons l'importance d'avoir un point de vue namibien et c'est bien pour cela que nous organisons une exposition itinérante pour la Namibie. Et sur l'un des panneaux, nous montrons une carte des chemins empruntés par les survivants Herero à travers le désert en direction du Botswana. Des milliers de Herero ont été repoussés dans le désert où ils sont morts de faim et de soif. Mais certains s'en sont sortis et nous avons pu reconstituer ces routes grâce à l'histoire orale. Car les gens avaient gardé la mémoire des noms des points d'eau, c'est la mémoire de la communauté.
Jérémy Sylvester, dans cette exposition qui va commencer à tourner à partir du mois d'avril 2017 en Namibie, est-ce que vous allez pouvoir présenter un document nouveau ou exceptionnel sur l'histoire du génocide des Nama et des Herero en Namibie?
Yes, we have a copy of...
Oui, nous avons une version de l'ordre d'extermination en langue Herero, c'est-à-dire de l'ordre émis par le général Van Trotta contre le peuple Herero, qui statuait que tous les Herero devaient être tués ou chassés dans le désert. Et c'est un document qui constitue une preuve cruciale. Et cette fragile feuille de papier a été trouvée aux archives nationales du Botswana. Et je pense que c'est le document le plus important de notre exposition.
Comment les descendants des colons allemands réagissent-ils à votre entreprise historique ?
La Namibie est unique en ce qui concerne la taille de sa communauté germanophone, pas en pourcentage mais en nombre. Ceux qui parlent allemand sont des milliers et ils ont même un journal quotidien d'information en langue allemande. Alors si certains n'aiment pas se remémorer ces événements passés, je pense que la jeune génération, elle, est tournée vers la réconciliation et affronte ce passé. Je crois qu'il est important que notre exposition, qui s'intitule « Le génocide namibien, les leçons du passé » n'est pas pour seul enjeu d'informer du point de vue namibien, mais aussi d'interroger les origines de ces événements et de comprendre les causes profondes que sont les préjugés et la discrimination. Il s'agit de continuer à récuser les discours et les comportements de haine dans notre société.
Jérémy Sylvester, que vous pourrez rencontrer, chers auditeurs, si vous êtes de passage à Paris lors des deux journées de colloque organisées par le Mémorial de la Shoah, ce sera les dimanches 26 et lundi 27 février 2017. Alors j'aimerais bien sûr que l'on revienne sur les propos de Jérémy Sylvester et sur la quasi-absence de lieux de mémoire en Namibie. J'imagine que vous avez été frappé par le fait que les touristes puissent camper à Shark Island sur cette île des requins, comme si on plantait sa tente à Auschwitz, nous dit Jérémy Sylvester. Qui répond, Yann Bart Gewald?
Well, I can only agree with Jeremy. This is incredible that you would place your tent on a place where 100 years earlier somebody has been consciously killed. And I don't think that the tourists know that this took place.
Je ne peux être que d'accord avec Jérémy là-dessus. Il est incroyable qu'on puisse planter sa tente quelque part où il y a eu des massacres un siècle auparavant. Et je pense que la plupart des touristes n'en sont même pas conscients.
Alors si on a entendu effectivement Jérémy Sylvester évoquer la richesse des sources orales, mais aussi ce document extraordinaire qui serait une version Herero, de l'ordre d'extermination donc signé par le général Lothar von Trotta.
Jeremy mentions this, the fact that we have the extermination order in Herero.
Ce document original en langue Herero, l'ordre de destruction, c'est quelque chose qui existe et que j'ai trouvé personnellement dans les archives nationales. Il est toujours là, vous pouvez aller chercher vous-même dans les archives de Botswana.
Mais pourquoi une version en Herero, justement ?
Because it was distributed.
Justement, pour que les rescapés Herero puissent partir avec des consignes fermes, expliquant que s'ils devaient revenir en territoire allemand, ils seraient fusillés.
Sophie Nagiscard, on va pouvoir également voir ce document à Paris, dans l'exposition du Mémorial de la Shoah.
Oui. On montre le document en copie, c'est pas évidemment le document original, est resté au Botswana, mais je pense que dans l'exposition itinérante qui va circuler en Namibie, ce sera la même chose. Mais on peut voir ce même document, effectivement, au mémorial.
Quels sont de votre côté, hein, donc en France, les documents qui vous semblent exceptionnels ou les pièces maîtresses de l'exposition?
D'abord, on a un ordre d'extermination, ça c'est quand même très rare. Donc on a celui-là qui est sur un papier qui a été plié, dont on sent vraiment que la qualité, effectivement, la reproduction montre l'histoire que le document lui-même a eue, puisqu'il a été transporté par quelqu'un qui s'est réfugié. Donc c'est pour ça qu'il est conservé au Botswana, hein, qui est quelqu'un qui a fui le territoire qui lui était interdit. Et puis après, il y a tous ces documents, effectivement, du côté allemand, malgré tout, hein, qui ont une comptabilité extrêmement précise de ce qui se passait. C'est-à-dire, on sait le nombre de gens qui étaient internés dans les camps de concentration, on sait le nombre qui étaient morts. Il y a même des feuilles déjà pré-imprimées pour les cas de décès dans les camps de concentration. Voilà. On montre aussi, ça c'est une collection, c'est deux pièces qui viennent de la collection personnelle de Jan Barth, Gewalt, dont un de ces jetons, en fait, ces espèces de médailles qu'on mettait aux Africains, qui servaient un peu à les identifier comme des médailles en métal qu'on mettrait au cou de son chien aujourd'hui, et qui délimitaient donc des zones de travail ou de circulation pour les Africains. Et après, il y a aussi toutes ces photographies qui existent, quoi. Bon, à la Bibliothèque nationale de France, vous allez pouvoir le voir même sur le site Gallica, il y a un magnifique album fait par Théodore Ribock sur lequel on voit des photos de
Hendrik Witbooi. Qu'est-ce qu'on voit justement?
On voit les fermes, on voit les pasteurs ou les missionnaires avec des jeunes gens. On voit les photos des camps de concentration, on voit les photos des chefs en présence. Hein. On voit toutes les photos des chefs Herero, des chefs Nama. On les voit à un moment pris en photo avec les différents gouverneurs, de manière à ce qu'on comprenne les alliances et les mésalliances qui vont se mettre en place. On voit les photos des zoos humains à Berlin où Samuel Maherero envoie son fils Friedrich Maherero qui refuse de se mettre en costume tribal pour conserver son costume à l'occidental tel qu'il est habillé tous les jours. Et puis à la fin, on voit aussi les photos de ces camps de concentration et notamment les photos qui ont été prises à Shark Island, qui sont des photos faites un petit peu comme les soldats allemands plus tard feront les photos dans les ghettos. C'est-à-dire, ce sont des photos qui rentrent et se prennent en photo d'une manière un peu touristique dans ce camp. Et on voit tout à coup les femmes Herero qui sont parfaitement habillées sur toutes les autres photos. On les voit tout à coup torse nu et on comprend que là, il se passe quelque chose effectivement de différent, d'une humiliation sexuelle et raciale. Voilà. Donc on voit quand même les choses. Et puis on voit aujourd'hui aussi les photos des commémorations, les photos des monuments. On voit notamment deux photos qui sont assez amusantes. On voit l'inauguration du monument équestre aux soldats allemands colonial qui a été déplacé après l'indépendance de la Namibie, mais enfin quand même un petit peu après, et qui aujourd'hui est parqué dans une arrière-cour, mais au sol et non plus sur son rocher, avec derrière le bâtiment du nouveau musée à l'indépendance. Donc on voit aussi que finalement cette histoire, elle tourne, quoi. Que le passé colonial n'est pas forcément oublié ni enterré, mais que autre chose se met en place.
Et cette autre chose, Jan Barth Gewalt, va être aussi un terrain scientifique pour vous chercheurs, parce que on l'a mentionné, les historiens ont commencé à réellement travailler sur le sujet uniquement depuis les années 90, donc on voit bien qu'il y a une réelle réécriture de l'histoire opérée, et on l'a compris, aussi bien à partir des sources allemandes que des sources namibiennes, avec cette importance de l'oralité, puisque qui dit génocide dit évidemment éradication d'une culture. Jan Barth.
What I think is going to happen next in terms of research is going to be that we're going to have a far more of an African perspective.
À l'avenir, la recherche sera davantage africaine, représentant un point de vue africain. Jusqu'ici, l'essentiel des recherches a été effectué par des gens comme moi, d'origine européenne.
Et pour terminer, êtes-vous d'accord avec Sophie Nagy-Skard sur le lien, la filiation presque entre cette approche racialiste scientifique de ce génocide des Herero et des Nama, et ensuite l'approche scientifique racialiste qui va nourrir toutes les thèses anti-juifs et l'extermination des juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.
I agree with Sophie to a certain extent.
Je suis tout à fait d'accord avec Sophie dans ce sens-ci, là où elle parle de la bureaucratisation des processus, là où on notait tout. Tout était consigné, notamment le nombre de personnes et l'attribution de matricules.
Sophie mentioned two badges which were to be worn by people, all black people over the age of 7 in the German period after 1908 had to wear one of these badges.
Sophie a parlé des deux badges que j'avais portés, tout noir, au-dessus de l'âge de 7 ans, et cela à partir de 1908. Les matricules étaient consignées dans le registre du travail, l'Arbeitsregister, et dans le registre des décès, le Totenregister. Et là, on voit bien la bureaucratisation de l'assassinat de masse.
To the Jewish genocide, comme dans le génocide des Juifs.
It is possible to track a person from when the person is captured.
Il y a une chose qui est très importante. Il est possible de suivre à la trace tout individu du moment de sa capture jusqu'au transfert dans les camps, d'un camp à l'autre, à un emploi à un autre emploi, jusqu'à sa mort. On peut tracer tout individu de cette façon-là.
Merci, merci à tous les trois. Merci également à l'historien namibien Jérémy Sylvester et à notre traducteur Bernard Cohen, ainsi qu'au président de l'association de victimes du génocide Herero, Enama, Esther Mouyangue, Ida Hoffmann. Elles seront également à Paris les 26 et 27 février et j'aurai le plaisir de les questionner. Plus d'infos sur ce colloque, sur la page de la Marche du Monde. Et en attendant, je vous invite vivement à vous rendre au mémorial de la Shoah à Paris pour découvrir cette première exposition française sur le génocide des Herero et des Enama. Le génocide des Herero et des Enama, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, réalisé par Sophie Janin. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de l'émission, où vous trouverez les photographies de l'expo. Écrivez-nous, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.
En sol majeur,